Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, Kezako, des histoires, des contes, des légendes. Et des paroles. Aujourd'hui, des paroles de berger. Ah, il y en a qui vont être contents parce que ça va râler, ça va rouméguer, comme on dit. Les bergers. Allez, lisons quelque chose à ce sujet. Le mystérieux peuple des bergers, mêlé à tous les événements de la terre et des hommes, fait percevoir ce que les sens profonds de l'univers ont de grandeur. Il exerce la prérogative illustre qui de tout temps lui fut impartie, celle de guider et d'ouvrir au loin la marche de l'humaine aventure. Sa houlette est ce qu'il s'est créé de plus pur en fait d'outils et de symboles. Le grand bâton pastoral accrosse à pacifier l'homme. Aux mains des bergers, il a montré les routes ouvertes des continents. Jamais il n'a versé du sang. Un ordre de clarté universelle est inscrit en lui. Sa venue dans le monde fut une venue rédemptrice parce qu'il a institué le premier métier où éclata la noblesse professionnelle dans l'obscure conscience des primates que nous fûmes. Oui, bon, c'est trop, hein. Mais c'est Jacques Lacarrière qui dit ça, donc c'est normal. Les bergers, eux, sont modestes. J'ai un ami berger en Ariège qui m'a envoyé un livre. D'ailleurs, c'est à cet ami qu'est dédiée cette émission. Il m'a envoyé un livre d'un berger des Alpes. Et oui, les bergers parlent aux bergers. Ce berger des Alpes, il s'appelle Patrice Marie. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il est né en Normandie, au beau milieu du XXe siècle. Ses parents sont paysans, éleveurs de vaches, dans les prés gras de l'Eure. Il apprend la nature avec son grand-père, paysan et chasseur, un homme qui voyait plus loin que le bout de son champ et aimait raconter des histoires. À 18 ans, Patrice part sur les routes avec un vieux vélo, une carriole et son chien. Il part dire ses poèmes, déjà, et vendre son premier recueil dans les MJC qui remplissent alors à plein le rôle de lien entre les jeunes et la culture, dans l'idée de promouvoir une éducation populaire. Direction le Larzac, en pleine désobéissance civile. Lui-même est insoumis à l'armée, donc ça tombe bien. Il y fait ce qu'il connaît le mieux, garder des bêtes, écrire, nouer des liens avec des gens, se battre à leur côté. Il rencontre José Beauvais, se lie d'amitié, travaille avec lui. Il s'oppose à l'expropriation des paysans du COS et occupe une maison devenue propriété de l'armée sur des terres où devait s'étendre le camp militaire. Plus tard, l'aventure continue dans les Alpes, en Isère, où les côtoie tant des musiciens qu'un vieux paysan. Celui-ci, ancien résistant dans le Vercors, partage avec lui la conviction de ne jamais se laisser faire. Une amitié et une fidélité seront scellées à vie. Les deux se comprennent bien. Et le voici de plein pied dans le monde pastoral qui le passionne, où les rapports humains sont bruts de découfrage, les patrons souvent un peu bourrins, un peu filous, et les cabanes assez spartiates, mais il s'y sent chez lui. Paysan travailleur, il milite à la Confédération paysanne et participe à la création de l'Association pour le développement de l'agriculture biologique, puis à celle de l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, l'ADEAR, qui promeuve les idées de l'agriculture paysanne et accompagne l'installation de nouveaux paysans. Dans les années 90, il est aussi membre fondateur de l'aventure des Jardins de Cocagne, qui forme des personnes éloignées de l'emploi au maraîchage, leur permettant ainsi de reprendre pied dans la vie tout simplement. C'est un homme libre qui a toujours des combats en tête et qui ne ménage pas sa peine pour venir en aide et défendre le monde de paysans. Il a écrit ces dernières années et il se met à habiter peu à peu la peau de Jean Vémont, le conteur indigné, bergers, paysans, citoyens, empêcheurs de tourner en rond. Madré et ombrageux, toujours prompt à se battre contre la cupidité des marchands, mangeurs de terre qui évincent les paysans du pays. Dans ses textes, il convoque l'esprit du Giono de la lettre aux paysans sur la pauvreté et la terre, écrite en 1938 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le Breton, Pierre-Jacques Elias, le poète libertaire Gaston Couté, l'anarch, Léo Ferré, l'indigné, Stéphane Hessel, le cyclopédique, Pierre Desproges et Coluche, le cœur sur la main. Les textes de Patrice Marie sont du même bois que les chansons protestataires. Sous la gravité perce un humour caustique qui, tout aussi bien que la guitare de Woody Guthrie, tue les fascistes, les obsédés de la croissance et les cons. Sa révolte s'arrondit mais prend de l'ampleur. Elle est généreuse et tient au corps comme les tartiflettes qu'il cuisine parfois sur le grand Vémont. Oui, ça, là aussi, c'est trop. C'est trop, mais c'est la préface de Guillaume Lebaudy. Les bergers, eux, sont modestes. Alors venons-en au mot même de Patrice Marie. Comment ce personnage de Jean Vémont, le berger indigné, lui est venu ? Un jour, je me suis réveillé ombrageux, fatigué d'entendre les gens du MEDEF brailler que nous étions devenus tous paresseux, que si la France allait si mal, c'est que nous n'étions pas assez soumis au capital. Alors, j'ai regardé le soleil briller, il était magnifique, tout rouge et tout rond, dans un ciel de plomb. Je lui ai cligné familièrement de l'œil en lui disant « Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas con de donner une journée pareille à tous ces patrons ?» Néanmoins, pour préserver ma liberté, j'ai continué à travailler. Et pour gagner ma vie, je suis allé garder mes brebis. Quand, dans le silence, je les entends brouter, je sais pourquoi, aujourd'hui, je suis berger. Alors, pour relater cette vie de berger, en étant fidèle à cette déclaration d'intention, j'ai imaginé le berger Jean Vémont, conteur indigné. Qui suis-je ? D'où je viens ? Et qu'est-ce qu'on bouffera demain ? Voilà en gros ce que grommelait cet homme, tout droit sorti d'un roman où il aurait été berger, paysan, citoyen, conteur et poète. Tout cela à la fois. Écoutons donc son dialogue avec mes brebis. Et surtout, partons enfin pour la montagne. J'aimerais vous parler de ma vie de berger, de l'état d'esprit qui vous pénètre durant 120-150 jours chaque année, de juin à octobre, au rythme des quatre saisons, là-haut, dans la montagne. De la confrontation avec la solitude qui vous nourrit et alimente les tâches quotidiennes de l'aube au crépuscule. De la nécessaire sérénité qui doit vous envahir pour vivre en douceur ce mode de vie. De la maîtrise des pulsions qui pousse inexorablement à solliciter l'attention d'une autre présence humaine qui n'est pas là. Du face-à-face avec soi-même, où tout ce que vous décidez doit vous permettre de mettre en ordre et en œuvre le meilleur de ses pensées. De l'entretien de l'énergie physique, d'où chaque pas, chaque geste est prépondérant dans le rôle de gardienne, de troupeau et du temps qui s'écoule. De ce rôle de protecteur, de bon berger à l'écoute de ses brebis. Elles ne vous suivent que si elles vous aiment. Et elles ne vous aiment que si vous répondez à leurs attentes. Elles vivent les éléments à leur façon, au berger de les comprendre. Malheureusement, depuis quelques années, la douceur et le mode de vie entre brebis et berger se sont quelque peu modifiés dans les alpages. J'ai voulu que ce soit elle, mes brebis, qui vous le raconte. Je ne peux pas, malheureusement, vous relater les mécontentements de chacune de mes 1500 bêtes. Ce serait trop long. Alors, comme dans tout mouvement de revendication, se distinguent des porte-paroles, et je vais vous les décrire. Cette année, la saison avait bien commencé. Bon, un peu de froid en juin, de gros orages en juillet, la canicule en août, du brouillard à l'automne. Quelques rumeurs venant des alpages voisins concernant la présence de bêtes féroces et du retour de nombreux estivants prenant l'air. Le quotidien, en quelque sorte. Néanmoins, la présence de bêtes féroces m'obligeait à modifier les habitudes des brebis en les contraignant à ne plus pâturer dans les bois, faute de visibilité, et ne plus monter sur les crêtes. Trop dangereux à cause des plausibles paniques au bord des falaises. Et puis, le retour, tous les soirs en bas de la montagne, auprès de ma cabane, afin de rassembler le troupeau dans un parc de protection que je dois aussi surveiller la nuit. Ça, les brebis, elles n'aiment pas. Fini pour elles, les nuits au clair de lune à rêvasser là-haut sur les crêtes. Bref, juste quelques simples désaccords entre mes nouvelles prérogatives et les habitudes ancestrales des brebis. Et puis quand même, quelques soupçons quand je les regardais manger. J'avais bien remarqué qu'elles me regardaient de biais, la tête basse. Je n'avais pas vraiment vu venir ce qu'elles complotaient. En tête de ce complot, Chiconne d'abord. Une vraie rebelle celle-là, la secrétaire générale en quelque sorte. La brebis qui ne fait rien comme les autres, toujours devant ou derrière, à gauche ou à droite, à tirer le reste de la troupe là où il ne faut pas, à se rebeller contre les chiens en tapant du pied et leur fonçant dessus tête baissée. Combien de fois je l'ai insultée, celle-là ? Elle me fait chier, cette conne ! Je vais la vendre ! Jusqu'au jour où je l'ai vue tenir tête à une bête féroce pour finir par la faire fuir. J'ai donc changé d'avis à son égard. Plus jamais je l'ai insulté, et par contraction, chier cette conne est devenue chiconne. Lulu Berlu, une brebis du pays, une dioise qui m'a été confiée par un vieux monsieur qui s'appelait Albert Berlu. C'était sa dernière brebis. Le jour où il me l'a confiée, il m'a bien dit « Prends-en soin de celle-là ». C'est une rustique. Jamais vu un antibiotique, que du biologique. D'ailleurs, regarde, c'est écrit sur son dos, m'avait dit ce vieux monsieur. Comment ça, AB ? Mais ce sont vos initiales, Albert Berlu. Mais non, mon couillon, ça veut dire AB, agriculture biologique. Blagueur, ce monsieur Berlu. Alors depuis cette brave brebis, je l'ai appelée Lulu. Lulu Berlu. Gertrude. Une habituée de la montagne, cette année c'est sa 10e estive. Du métier, la Gertrude, à part quelques rhumatismes, toujours en forme. Et de plus, une sacrée laitière pour nourrir chaque année ses deux agneaux. Une vraie baissonnière. Sauf que l'année passée, madame a éprouvé le besoin d'aller batifoler avec le bélier du président du syndicat, l'idiote. Résultat, sur les deux agneaux qui sont nés de cette union, le mâle lui vidait la mamelle à lui tout seul. Et plus de lait pour la petite agnelle que j'ai dû élever au biberon. Depuis, cette petite agnelle, son papa, c'est moi. Et elle, c'est ma chouchoute, Lola. Ma chouchoute, l'agnelle de Gertrude. Toujours la première à répondre à mes appels, à sautiller vers moi, avide de câlins et friande de gourmandises. Toute la tendresse du monde brille au fond de ses yeux à ma Lola. Émissaire, le bélier du président du syndicat. Un gros lard, celui-là. Un orgueilleux au milieu de ses courtisanes. Un prétentieux, un parisien. Oh pardon, un île de France. On a un problème tous les deux. Je le soupçonne d'exciter tout le troupeau contre moi avec son air hautain quand il renifle dans le vent, toute dame dehors. L'an passé, comme chaque année depuis 35 ans, je souhaitais conduire tout ce petit monde avec une autorité naturelle et bienveillante au gré du temps, de la bonne herbe et des contraintes actuelles. Ces contraintes, c'est-à-dire interdire aux brebis de pâturer dans les forêts, en bas de la montagne et en haut sur les crêtes, comme je l'ai déjà évoqué. De se promener dans le brouillard, bien sûr, désormais jour de jeûne obligatoire. Interdit aussi de chômer. Chômer, pour les brebis, attention, hein, c'est quand elles se posent pour ruminer, hein, tout simplement. Interdit de chômer au bord des chemins de randonnée. Trop carte postale pour les promeneurs. Et les cartes postales, elles s'en foutent, les brebis. Mais pas moi! On n'est pas aux zoos, ici. Et puis, il y a les chiens à mes mères qui viennent les déranger. Quand il fait bien chaud, les brebis, elles chôment. Ces contraintes, je les constate depuis déjà quelques années. J'ai remarqué que les brebis les ont perdues en gigot et gagnées en blessures dues aux incessants kilomètres parcourus du haut en bas de la montagne. Et puis, il y a aussi les remarques des éleveurs à la fin de la saison. Hé, berger, cette année, tu as trop dormi, les brebis, elles ne sont pas jolies. Un jour, tous ces désagréments ont volé en éclat, là, au milieu de la pente, en fin d'après-midi, juste après la chaume que les brebis avaient utilisée à peaufiner leurs arguments. Elles se sont révoltées. En tête de cette révolte, la chicone, qui me toisa d'un air hautain. On en a marre, berger, tu es un bon à rien. Marre de toi et de tes chiens. Trop d'interdits, notre vie ici est devenue pourrie. Ce sur quoi surenchérit la Gertrude. Ce n'est plus comme avant. On mangeait bien et par tous les temps, sur les crêtes, on pouvait rêvasser et dans les forêts, des champignons se délecter. Le berger. Oh, 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 doucement les rêveuses. Les crêtes sont devenues dangereuses. Dans les bois, des champignons hallucinogènes et vénéneux, répondis-je d'un air malicieux. Campé au milieu du troupeau, émissaire, le conspirateur profita de ce mouvement d'humeur pour égayer d'un ton railleur cette troupe en fureur. Eh, tu crois que on t'a pas vu halluciner en biberonnant au goulot de ta bouteille ces jours derniers? Ça devait chauffer sous le béret. Tu devais apercevoir la muraille de Chine à l'est et la statue de la liberté à l'ouest. Derrière la troupe hilare, la Gertrude se reprend, relève la tête. Elle m'apostrophe en disant « Eh oh, berger, rends-nous notre liberté, sinon tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne te souviens pas, il y a quelques décennies, déjà là-bas dans le sud, en Languedoc, c'est une grand-tante à moi qui m'a raconté cette anecdote. On voulait condamner et mettre en prison des bergers qui étaient en rébellion. C'était à Millau, sur le Larzac. Le tribunal, nous, on l'a mis à sac. Ils n'avaient pas bonne mine, les Pandores, quand nous les avons piétinés comme des porcs. Le berger, oh, mais ce n'est tout de même pas le même contexte. On voulait leur confisquer leurs terres. Ici, c'est encore à nous, tout ce grand terre. Et moi, j'applique les lois de ceux qui en écrivent les textes. Bougre d'âne, s'insurgea la chicone. C'est une loi, ça, de nous faire coucher tous les soirs dans plus d'un mètre de merde cumulée. Nous, on dépose 300 grammes de pécole chaque nuit sur le sol. Soit 300 grammes par 1500 bêtes, par 120 jours, 54 tonnes. Tu crois que cette merde rend nos nuits douces et bonnes? Sur ces implacables arguments, j'ai vacillé dans mes fondements. La chicone a consulté pendant un long moment le reste de l'attroupement. J'ai compris, dans l'œil plein de sous-entendus que me lançait la sage Lulu Berlu, son regard en disait long de l'inquiétude que lui inspiraient les décisions de la chicone et de la Gertrude. Dans un silence mortuaire, je vis le troupeau se mettre en marche. À la tête de ce cortège en colère, la chicone était majestueuse dans sa démarche. Elle m'interpella. « Eh oh, maître berger sur ton rocher perché, avec toute la courtoisie que l'on te doit, assez palabré. De notre chemin, enlève-toi. » Elle a raison, la vieille Gertrude. Nous lui conférons sagesse en cette altitude. Mais tu vois, nous sommes ici 1500. Multiplié par 60 kilos chacune, si tu tiens à ta vie, laisse-nous passer, écarte-toi, avant de prendre nos 90 tonnes dans l'estomac. Abattu et sans voix, devant ces arguments de poids, j'ai laissé mes brebis paître et filer là-haut sur la crête. Je suis resté là, assis, plusieurs heures, envahi de peine et de rancœur, en pensant qu'il vaudrait mieux enfermer ces brebis rebelles dans des élevages industriels et que pour ces loups, cause de tout, semant la terreur, on pourrait les manger dans des fast-foods, en hamburger. Puis mon esprit s'est emballé, ma réflexion s'est évadée vers ce monde rural malmené. On avait bien déjà réussi à expulser de Pologne et de Roumanie les paysans de leur campagne, pour leurs terres s'approprier, laissant ainsi leurs chevaux abandonnés. On pouvait désormais en manger dans nos lasagnes. Un galop effréné m'extirpa de mes considérations. Juché sur son étalon, chevauchait un hirsute cavalier. À l'allure désordonnée de ses mouvements, j'en conclus qu'il devait avoir mal en son séant. Arrivé à ma hauteur, je l'entendis s'écrier « Aïe, aïe, ouille !» en s'écrasant les couilles. Me vint alors l'idée saugrenue, planqué derrière mon rocher, d'émettre un sinistre sifflement aigu pour affoler le cheval qui s'est emballé et laissa le cavalier, poum, à terre, tombé sur son derrière. Ce pauvre homme, rongé par la douleur, m'expliqua que dans la vie, il était tradeur. Perplexe et décontenancé, j'ai longtemps admiré la fantastique chevauchée de ce cheval au galop libéré de son fardeau. Un plaisir ironique m'a convenu de croire que ce n'était pas mon sifflement aigu qui fut la cause de cette chute en montagne, mais un règlement de compte d'un cheval qui ne voulait pas finir à lasagne. Là-haut, sur la crête, soudain, sortant de ma torpeur, mes brebis, où sont-elles? Là-haut, quelle horreur! Un vol d'oiseaux charognards m'indique qu'il était probablement trop tard, que l'une des brebis que j'avais laissé filer avait dû subir les assauts de dents acérées. Virevoltant d'un rocher à l'autre, rongé d'inquiétude, avalant la pente et l'altitude, transpirant un flot de sueur au goût d'amertume, je m'accablais d'une incompétence inopportune. Enfin en haut, aux confins d'un plateau, je fais fuir les oiseaux de mauvais augure et découvre sur la pâture le cadavre de ma Lulu Berlu. Adieu, ma Lulu. Je m'imagine au téléphone. Monsieur Berlu, votre brebis est morte, dévorée. L'administration va vous indemniser. Va au diable, berger d'opérette. Tu m'avais promis de prendre soin de cette bête. Et le reste du troupeau, là-haut, sur le sommet, elles sont toutes là à mon arrivée. Les unes, les yeux plongés dans le lointain. Les autres se profilant dans le ciel. Un long, très long face à face où s'affrontent nos regards. Lola, ma chouchoute, vient se faire cajoler. Sa douceur et sa très grande tendresse sont récompensées par la lenteur de mes gestes. Je sens la défiance s'apaiser, laissant place à la confiance retrouvée. Mais belle, ce soir, nous dormirons ensemble sur ce sommet. Dorénavant, ce sera comme ça tout l'été. Égare à quiconque viendra nous déranger. La nuit, là-haut, dans la montagne, la féerie des étoiles donne à la terre une forme sensuelle que seuls les yeux de l'imaginaire permettent d'entrevoir. Bonsoir à toutes. Bonsoir Lola. Bonsoir Gertrude. Bonsoir Émissaire. Bonsoir Chiconne. Adieu. Lulu Berlu. Du haut de ce sommet, une bouteille à la main. Vive la muraille de Chine! Vive la statue de la liberté! Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-